RMC, le Super Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Et Olivier Lambia et Daniel Riello, et vous sur l'hashtag RMC Live et au 32-16 également. On est en pleine leçon de géographie francilienne.
Je sais pas si on dit francilienne, oui.
Ah non, mais c'est toi qui me dis que tu déménages, donc on veut savoir où tu vas habiter.
Ouais, on veut tout savoir.
Oui, mais bon.
Tu vas où à Farif?
Oui, c'est ça, oui. Ce soir, victoire de Dijon face à Rennes de Buzyn. Palmont et Tavares sont marqués pour les Bourguignons. Le but breton a été l'œuvre de ça. On était avec Olivier, supporter du stade Rennais au 32-16.
Tu pourrais, comme tu travailles en décalé. Car l'after commence à 22. Bon, tu as été au bureau à 20h. Tu prends l'avion au Portugal à midi.
Alors, tu sais que moi, j'avais un...
T'es là en début d'après.
C'est un confrère qui faisait ça. Il habitait à Lisbonne et venait commenter ses matchs à Paris et retournait à Lisbonne.
Oh. Moi, je pense que tu devrais commencer à penser à ça.
Tu penses? Ça risque que tu
prends un abonnement
billet,
d'avion. Bah, un abonnement d'avion.
T'as les navettes.
T'as l'avion à 20 balles, c'est aussi cher que si t'habites loin en banlieue, le train.
20 euros.
T'as peu de fois, tu devrais penser à ça.
Moi, je vais y réfléchir.
Que tu vas gagner sur le loyer, tu le mets dans le voyage, c'est bon.
Ouais, je vais y réfléchir.
C'est pas bête.
Je vais y réfléchir. C'est toujours là, Olivier.
À minuit, comment tu fais? T'as pas l'avion, donc faut que tu prennes un avion demain matin.
Alors, qu'est-ce que t'en penses, Olivier?
Tu restes au bureau. Tu prends l'avion demain à 6h, t'arrives à Lisbonne. T'es la matinée là-bas, tu prends ton petit déjeuner.
T'en
Lisbonne.
Penses quoi, Olivier, toi?
Ah, écoute, du match ou du Portugal?
Non, on s'en fout du match. Non, je déconne. Et d'ailleurs, je suis porté à Dijonais, on vous attend au 32-16, hein, victoire de 1.
À 18h, t'es là.
Écoute,
mec, il lâche pas l'affaire.
T'arrives là pour 20h.
Sauf que moi, je prends l'antenne à 13h.
C'est jouable.
Ah, ouais. Olivier!
13h.
Ouais.
Donc.
Écoute, moi, j'ai deux questions et c'est plus pour. Moi, le choix de Sarr. Je sais que Sarr revient de blessure et je voulais avoir plus l'avis d'Ali parce que pour moi Lamouchi il est obligé de le mettre. On sent qu'il a pas trop de rythme, mais est-ce que ce mec vraiment quand est-ce qu'il va vraiment retrouver un peu son niveau, parce que c'est un mec qui était assez explosif au début de saison. Il a de qualité. Là, on sent qu'il manque il manque complètement de rythme et il apporte pas grand chose. Mais c'est un mec qui sur dans l'attaque rennaise va pouvoir en fin de saison être décisif. Mais quand est-ce qu'il va pouvoir vraiment retrouver un niveau physique et technique, quoi? C'est un peu ça. Enfin, quand tu sors de 4 mois de blessure comme ça, quand est-ce que tu peux retrouver ton meilleur niveau, en fait, simplement?
Allez.
Le médecin.
Je suis entièrement d'accord avec toi dans le
c'est
sens.
C'est pas médecin,
où...
mais c'est, t'es obligé de le mettre. Alors c'est vraiment retrouver ses sensations, je sais pas.
Non, mais déjà une chose, c'est Olivier, c'est ça?
Ouais.
Ouais. Sarr, on le voit qu'il a un gros potentiel. Il l'a démontré à Metz, et on sent qu'il n'est pas dans le rythme, dans sa façon d'accélérer ou de dribbler. On le voit des fois, il veut utiliser sa vitesse. Mais il a oublié qu'il est resté 4 mois blessé et sa vitesse qu'il avait avant, ou qu'il pouvait éliminer juste sur son accélération de joueur, il ne l'a plus. Et c'est ça un petit peu son problème, c'est-à-dire qu'il faut savoir jouer avec ses qualités et avec sa forme. C'est peut-être ce qu'il fait pas. Maintenant, Sabri le fait jouer parce que peut-être, quand il le voit à l'entraînement et tout, par rapport aux autres, il a un plus gros potentiel. Mais par contre, le rythme des matchs, par contre, t'as beau faire ce que tu veux, n'importe quel joueur, si tu n'as pas les rythmes des matchs, pour les retrouver, il faut un certain temps. Et sans me faire de la peine à cette équipe de Rennes, prendre le rythme après être blessé dans cette équipe que j'ai vu encore jouer ce soir, je peux te dire que ça doit être dur, hein, parce qu'il n'y a aucun rythme dans cette équipe.
Est-ce que tu ne le mettrais pas, tu vois, parce que là, il le met sur un côté, donc défensivement, il ne fait pas le taf. Est-ce que tu ne mettrais pas lui avant-centre? Parce qu'en fait, il met Kadri. Il met Kadri, t'as quand même sur le banc. Alors, t'as Moubele qui est pas extraordinaire, mais qui est avant-centre.
Bah, il y a surtout que vous n'avez pas d'avant-centre, c'est tout, quoi.
Attends, t'as Brandon quand même, un sacré cheval Gourcuff, hein, qui est allé chercher en Espagne.
Ouais, bah donc vous n'avez pas d'avant-centre.
Ouais, j'ai eu peur, donc tu déconnes, là.
De toute façon, déjà tu dis que Sarr n'a pas de rythme sur le côté, lui qui n'est pas avançant. Tu te rends compte si tu le mets avançant?
Il le met sur le côté parce que d'une c'est son poste et deux effectivement s'il a pas encore totalement les jambes, tu te dis que tu comptes sur lui pour faire les différences sur le côté, c'est
et
ça.
Et
le problème principal c'est l'avant-centre et c'est au milieu de terrain d'avoir justement, moi je dirais plus un mec comme Kadri derrière un attaquant.
Quand tu as une équipe qui fait pas de jeu comme il a mis ce soir. je vois pas ce que fait Sarr sur un côté, quoi. C'est ça, parce que t'avais ça, et t'as même Bourigeaud qui met quasiment.
Bah, Sarr, c'est pas trop à la limite un joueur pour une équipe qui fait le jeu, c'est pour une équipe qui contre-attaque, tu profites de sa vitesse.
Par contre, Bourigeaud,
c'est vrai que t'as beaucoup de mecs avec le même profil. Oui, tu vois, que ce soit Brandon justement ou Kazri, c'est des petits gabarits, des mecs. Non, mais c'est plus des joueurs de couloir même dans le profil.
Plus globalement, ce qui est gênant avec Rennes, c'est bon, c'est vrai que la Moussi, ça fait pas non plus 1000 ans qu'il est là. On compte beaucoup sur lui.
13-14 matchs.
Ouais, on compte beaucoup sur lui. On a envie d'y croire, on y croit. Pour l'instant, on n'est pas convaincu. Il y a certains matchs, tu termines, tu dis ah, il y a peut-être un truc là. Ça va commencer à venir. Et puis le match d'après, tu dis ah, non. Merde, ça vient pas.
Je te jure. Et je te jure.
Le problème, c'est Olivier. C'est Olivier. Le problème, c'est qu'on a l'impression que c'est l'histoire sans fin de Rennes, quoi. À chaque fois que tu crois à quelque chose, encore une fois, malheureusement, tu vas être obligé d'attendre.
C'est pas la Moussi que je condamne, mais quand je vois, j'ai fait Rennes-Marseille, il y avait Rennes-Angers, qui est anecdotique, mais entre le Rennes-Marseille et ce que j'ai vu ce soir, on voit une équipe
mais Rennes-Marseille, c'était un épiphénomène, c'est le coup classique de tu bats la grosse équipe en surprise.
Je te parle du 3-0 en championnat de la victoire de l'OM. Je te parle pas de la victoire, moi. Pas du tout.
Je pensais que tu faisais référence au match de début de saison.
Le match que j'ai vu il y a 10 jours ou 15 jours à Rennes en championnat, c'est une équipe qui était coupée en deux. C'est une équipe qui, dans l'intensité, même l'envie, si tu veux, ils ont manqué de tout, quoi.
Vous êtes fait déglinguer ce soir-là. Donc.
Mais tu vas à Dijon, tu sais comment l'équipe de Dijon joue. Tu sais que le milieu de terrain, il va être assez offensif. Tu sais qu'ils vont jouer au foot. Et ils sont incapables de répondre présent. Alors, moi, j'ai un conseil quand même pour la Moussi, parce que j'aime beaucoup, de joueurs. Moi, je pense qu'ils devraient, demain, au moment après le décrassage, leur mettre leur ennemi qui nous a montré ce soir. Parce que j'ai écouté certains commentaires, je regardais les commentaires des joueurs en post-match, mais ils se trompent complètement. Ils ont l'impression de ne pas être passés à côté. Ils ont l'impression d'avoir des occasions.
Ce sont toujours la discussion des coachs et des joueurs. Mais le problème de Rennes, c'est qu'ils ne jouent jamais en même temps, déjà d'une. Et de deux, une bonne équipe, plus ou moins, c'est plusieurs joueurs qui sont bons, en bonne forme et qui jouent bien en même temps. Le problème de Rennes, c'est toujours qu'il y en a un qui est en bonne forme, l'autre non. Et ça se ressent aussi quand ils jouent avec le ballon, c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas en même temps et ils ne défendent pas en même temps. Ça fait beaucoup pour une équipe.
Olivier!
Ouais.
Merci de nous avoir appelé, mon gars.
Dernière petite chose. Ben Sebaïni. C'est quand même un mec qui aujourd'hui a retrouvé sa place dans l'axe central, qui était nul latéral gauche. Et là, je l'ai vu encore ce soir, mais il est en énorme difficulté, ce gars. Il a 20 ans ou 21 ans.
Non, il est jeune.
J'ai l'impression que c'est compliqué pour lui, les matchs. Tous les matchs sont compliqués. J'ai mal pour lui, je trouve pas
Sebaïni, il arrive toujours à se débrouiller, mais c'est un axial. Mais quand tu balades un joueur d'axe à latéral, quand tu veux mettre Kazri de milieu offensif, attaquant de pointe d'avançant,
qui peut avoir une touche technique aussi, parce que ça manque, quoi. Quand t'as cette équipe là qui est en poste, il faut des joueurs qui puissent poser le ballon et puis repartir de l'arrière.
Olivier, pour te remonter le moral, tu raccroches pas. T'as vu Barisil ou pas?
Je l'ai vu.
Laisse tomber, je te le file pas le DVD. C'est mort.
Je crois qu'hier c'était The Passenger, je crois. Non, c'est pas la promo.
Moi,
on
m'a dit Barisil,
Je l'ai vu, moi, Barisil, j'ai bien aimé.
C'est bien. Mais c'est.
On l'a appelé The Passenger ou pas, là? Jérôme Thomas, notre producteur. Il a dit, allez, vas-y.
Gilbert l'avait hier, donc il doit.
Ouais, mais Gilbert, on l'a pas laissé.
Hier.
Ouais, mais Gilbert, il fait des sacrés promos sur The Passenger.
Eh ben, c'est parfait, c'est pour toi, mon gars. Merci de nous avoir appelé, Olivier, en tout cas.
Allez, bonne soirée
à toi.
Salut, à bientôt.
À bientôt, Olivier. Benjamin, autre supporter du Stade Rennais, il nous a aussi appelé au 32-16. Salut, Benjamin.
Bonsoir, messieurs.
Salut, Benjamin.
Alors, Benjamin, on était avec Olivier qui faisait le constat, tout comme d'ailleurs Daniel et Ali. Au Stade Rennais, il manque un avant-centre, et toi, c'est un peu le même constat que tu fais aussi, finalement.
C'est un peu le coup de gueule, et puis j'en profiterai aussi pour poser une question à Daniel, parce que Olivier Létang, du coup, a pris la présidence de Rennes depuis quelques mois maintenant avec la Moussi comme coach. On sait depuis un an, deux ans, trois ans, même quatre, qu'il n'y a pas d'attaquant à Rennes. que Giovanni Cio, c'était pas un attaquant, c'était un sketch. Donc du coup, qu'est-ce que fait Olivier Létang, en fait? Je comprends pas du tout la direction, quoi. On est le 25 janvier aujourd'hui. Des avancées.
Il dégraisse.
Non, mais ça, qui dégraisse.
C'est pas lui qui ramène l'oseille.
C'était il y a un an qu'il y avait 35 joueurs à Rennes. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Clairement, l'argent à Rennes, il y en a. Faut pas se mentir. La vente d'Ousmane Dembélé, elle a rapporté quand même beaucoup d'argent. Je comprends pas qu'on n'ait pas encore d'avancée. On est à 4 jours du match le plus important de la saison pour Rennes. Parce qu'on va pas se mentir, hein, si on perd encore et de façon lamentable contre Paris, ben, il restera plus grand chose à jouer cette année. Donc je comprends pas en fait ce que fait la présidence à Rennes, et je vois pas en fait en quoi Létang, Lamouchi vont apporter quelque chose par rapport aux prédécesseurs. On se moquait beaucoup de Lelay et des autres, mais au final je vois pas ce que ces deux-là apportent de plus aujourd'hui.
Benjamin, excuse-moi. Bon, alors déjà je sais pas pourquoi tu veux me demander ça à moi.
Parce que je sais que tu le connais. Je sais que Olivier Létang, tu l'avais dit quand il était arrivé à la présidence du club, tu avais dit que tu le connaissais de façon indirecte aussi.
Non, mais c'est quelqu'un que je connais, avec qui j'entretiens des rapports tout à fait courtois. Et si tu veux, je lui poserai la question de ta part, sans problème. Maintenant, les mecs, comme disait Alice, ils viennent d'arriver. C'est un peu compliqué de leur demander sur ce mercato de déjà tout changer. Le problème,
c'est
qu'il
n'y a pas tout changé.
On devait indéfiniment tout changer. Je sais pas si avant de dire ils n'en prennent pas ou est-ce que c'est dans les plans de Rennes sur les 4 derniers jours d'en trouver un attaquant.
Alors, puis ça court pas les rues, les plans,
et puis Dembélé, t'as rien récupéré Dembélé, hein?
Non, tu te trompes, Ali, là-dessus. Clairement, les finances, elles sont ouvertes à Rennes parce qu'il y a eu les reventes de Dembélé quand il est parti du Dortmund au Barça. Mais moi, je parle pas de tout changer. Hein. Moi, je parle d'un attaquant.
Ça court pas les rues, les numéros 9, là.
C'est très cher.
Mais tu vois, il y en a, mais ils se sont pas alignés.
Non, mais clairement, il en faut un. T'as raison qu'il en faut un. Maintenant, franchement, je suis désolé, j'ai absolument pas de réponse à savoir pourquoi Rennes d'ici le 31 ne s'est pas mis ou ne se met pas sur un attaquant. Franchement, j'en sais rien.
Daniel, je voulais juste compléter par rapport.
Tu sais quoi, Benjamin, je vais tenter le coup, je vais lui envoyer un message tout de suite.
C'est pas ça, Daniel. Un très bon avant-centre. Est-ce que tu penses qu'un très bon avant-centre irait à Rennes en ce moment?
Bah, t'as forcément un bon avant-centre qui a besoin de se relancer, Alice. Surtout au moment où
se relancer. Automatiquement, quand tu dis se relancer, c'est possible que ça soit.
Regarde, si on fait.
Tu vas pas amener un attaquant en difficulté.
Pour poursuivre la réflexion qu'on avait, si on refait le constat sur Olivier Létang et Sabri Lamouchi, ils arrivent en cours de saison. Alors certes, il y a un mercato d'hiver qui est là. On sait comment sont faits les budgets, c'est sur la saison, etc. On va pas refaire l'histoire. Mais Sabri Lamouchi, il a très certainement été pris. D'ailleurs, c'est ce qui a été expliqué aussi en vue de construire la saison prochaine. Ils vont bricoler. Donc s'ils prennent un mec en prêt là au marché d'hiver, même s'il sera pas là la saison prochaine, c'est pas totalement illogique non plus. Ils sont en galère d'avant-centre, clairement.
Mais le problème de Rennes, c'est qu'ils doivent dégraisser. Ils ont énormément de joueurs sous contrat. Et ça vient du travail qui a été fait avant. Quand tu disais que Olivier Létang et Lamouchi, pour l'instant, ils font pas grand-chose. Mais depuis combien de temps, toute cette direction et ces entraîneurs qui, depuis longtemps, ont fait quelque chose dans ce club? Pour l'instant,
je vais te répondre, mais je sais que ça va faire hurler dans le studio, mais la dernière période où il y a eu des résultats, alors que le jeu était pas du tout, mais la dernière période où il y a eu des résultats, c'était sous Antonetti. La dernière période, l'effectif, par contre, était dégueulasse, hein, clairement, quand on mettait Danzé, Mbia, Mandzek, c'était pas beau du tout à avoir joué, mais c'est comme ça que tu terminais quatrième en Ligue 1 à l'époque, hein. Donc, là, aujourd'hui, Rennes, ils sont cinquième. Dijon, tu me dis, ils sont cinquième, c'est pareil. Je veux dire, c'est du 5 au 16e, il y a aucun écart dans le jeu.
C'est pour ça qu'il faut patienter.
Tiens, Benjamin, petite info qui vient de tomber. Timothée Mémon qui nous commentait le match tout à l'heure, donc entre Dijon et Rennes. Victoire, on rappelle, 2-1 des Dijonais. Qui nous fait signe que Sabri Lamouchi a expliqué en conf de presse qu'il souhaitait voir arriver un renfort offensif d'ici la fin du mercato. Donc si Sabri Lamouchi
donc j'ai plus besoin de demander au patron alors.
Voilà. Et si je peux te balancer en deux noms, c'est bien.
Ouais.
Voilà Benjamin, merci de nous avoir appelé.
Merci, bonne soirée.
À bientôt Benjamin, bonne soirée à toi.
Il pourrait racheter Mitroglou.
Oui.
Ou se faire prêter.
Non, racheter la moitié de la moitié.
On parle de lui en Turquie, de Kostas Mitroglou. Jérôme Thomas n'en veut pas, dit-il dans l'oreillette. Voilà, supporter du Stade Rennais, notre producteur bien entendu.
Est-ce qu'il a une idée, Jérôme Thomas, d'un attaquant pour
ça peut être sur l'hashtag RMC Live. Supporter breton, envoyez-nous des propositions d'un avancement pour marcher d'hiver.
C'est lui qui s'occupe de ça, non?
Ouais, d'accord, ouais. Jérôme Thomas me dit, pense à ça là. Mais celui de Liverpool, bien entendu. Frédéric, supporter du DFCO de Dijon, nous a appelé au 32-16. Et messieurs, accueillons-le bien parce que c'est sa première dans l'after ce soir au 32-16. Salut Frédéric.
Bonsoir, bonsoir messieurs, bonsoir à toute l'équipe.
Salut, bienvenue mon gars. Bienvenue, welcome.
Eh ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir.
Bah, ça fait plaisir, en plus tu viens le bonjour, c'est-à-dire t'as une belle victoire ce soir.
Ouais, ouais, surtout, surtout, et je voudrais souligner au passage la très belle performance de monsieur Florent Balmont, qui prouve qu'à l'aube de ses 38 ans, tu vois, j'en ai 38 aussi, eh ben, on a encore du ballon.
Et le ballon, quand tu l'as eu, c'est ce qui part en dernier, c'est le physique qui part. Je suis sûr qu'Ali a encore beaucoup de ballons.
J'ai plus de ballon, plus de physique là.
Ouais, c'est le ballon, tu peux pas le perdre. Ça se perd pas.
C'est le physique.
Mais, c'est vrai que bon, en plus il y a la victoire au bout du fil. C'est vrai que les 5 dernières minutes c'est un petit peu chaud. On a l'habitude souvent de prendre des pions sur la fin des matchs et finalement c'est une victoire par le plus petit des écarts et c'est top quoi. Ça fait du bien. Et c'est vrai que je reviens sur Florent Balmont. C'est un peu, il a une âme d'aboyeur, et c'est ce qui manque un peu à notre équipe dijonnaise. On est un peu trop gentil, et on l'a encore vu ce soir sur le match, parce que c'est vrai que côté Rennais, ben voilà, ça tombe un peu facilement, ça met des semelles. L'arbitre n'a pas forcément mis des jaunes.
Il a été gentil avec Dijon en fin de match, l'arbitre. Il a pratiqué. Ouais. Ah oui, parce que peut-être aussi que les Rennais passaient leur temps beaucoup plus à pleurer qu'à jouer au football. Par contre, de là à dire que cette équipe de Dijon a besoin d'un aboyeur, je trouve pas, parce que dans tous les duels, ils y vont à 200%. T'as plein de joueurs qui accrochent. Et c'est peut-être pour ça que Balmont a pu faire le match qu'il a fait, hein, parce que cette équipe de Dijon joue au ballon et défend ensemble, se crée des occasions. Tavares qui fait un gros match, et heureusement qu'ils l'ont, parce que ça les aide énormément dès que ça va pas, parce qu'il peut te garder le ballon, c'est ce que n'avaient pas les Rennais.
Alors rappelons quand même également, cette victoire elle est aussi importante pour Dijon, parce qu'ils restaient sur 5 matchs sans victoire. C'est leur première victoire en 2018, hein, d'ailleurs, au Dijonais. Oui. Ça aussi c'est important, surtout qu'il y a un match face à l'Estac, hein, lors de la prochaine journée.
Oui, donc c'est clair que c'est des matchs où il faut prendre des points. Effectivement, bon, je reviens juste sur ce que tu disais, Ali, et on fait un bon match parce qu'on est aussi à la maison. Et quand tu regardes nos résultats à l'extérieur, bah de toute façon c'est catastrophique. On doit être la dernière équipe et on n'a pas l'âme qu'on a à la maison. Donc c'est vrai que un flow Balmont, ça fait toujours du bien, quoi.
Non, mais c'est pas la seule équipe qui est comme ça. On le sent, même Strasbourg à domicile a cette faculté à se sentir bien. Dijon pareil, il y a plusieurs équipes qui sont un petit peu comme ça à domicile. Mais je préfère, moi, la rigueur, que mon équipe, en tant que supporter, gagne à la maison et fait un match nul ou perd à l'extérieur, que le contraire, tu vois.
Oui, c'est sûr. Ouais. Après, je voudrais souligner également la très belle performance de Wesley Lotoa, qui refaisait sa première titularisation depuis sa grosse blessure. Du premier match, et c'est vrai que je pense que lui, pour la fin de saison, il va vraiment nous faire du bien, ouais, derrière, parce qu'on doit être à 45 buts encaissés, donc c'est énorme. Mm-hmm. Bon, le 8-0 de Paris, c'est clair que nous a pas fait du bien, mais et puis il va y avoir le retour aussi de Gillo Boggi qui avait pris 3 matchs pour avec son rouge qu'il a pris, donc je pense que la charnière Gillo Boggi Lotoa pour la fin de saison va apporter de la sérénité défensive et côté offensif, je me fais pas de soucis parce que c'est vrai qu'on a
des armes du monde. Ouais.
Merci de nous avoir appelé, Frédéric, en tout cas.
Eh ben écoutez, au plaisir et puis à bientôt.
Ouais, à bientôt.
Allez, très bientôt. Tiens, ne raccroche pas, Frédéric, on va te faire un petit cadeau pour ta première également. Deux places de ciné, mon gars.
Eh ben, j'emmènerai ma chérie qui s'appelle Laurie et j'embrasse également mes deux enfants, Elliot et Margot.
Voilà. Eh ben, on les embrasse tous, voilà. En tout cas. Merci.
Bon,
ciao, Frédéric, à bientôt.
Ciao.
À bientôt, Frédéric. Tiens, on a Romaric également, autre supporter du DFCO qui nous a appelé au 32-16. Salut Romaric.
Ouais, bonsoir à tous.
Salut Romaric.
Romaric, juste parce qu'on lançait tout à l'heure un petit appel, juste avant de te prendre Romaric.
Ouais.
Les propositions pour un attaquant du Stade Rennais, forcément, ça tombe sur le hashtag RMC Live. Alors. Voilà, il y a Bonnard qui nous dit, salut collègue Rennais, on peut te prêter Sigurdsson si tu veux, bien à toi. Voilà, il y a Vever qui nous dit, prenez Mitroglou à Rennes pour se relancer également. Autre message, il y en a qui propose Ben Arfa, tiens, qui a besoin de se relancer du côté du Stade Rennais. Il le connaît, Olivier Letton.
En réponse du président,
un avant-centre.
Ah.
Alors,
ouais, il m'a répondu super vite. Alors, je sais pas si ça va satisfaire les Rennais. C'est assez court comme réponse. Il me dit, il y a des chances.
Ah, bah voilà,
c'est, bon,
bah,
ça c'est déjà pas mal quand même pour les supporters Rennais. Voilà. Je lui dis, est-ce que vous allez prendre un 9 d'ici le 31? Il me dit, il y a des chances.
Voilà, et ça c'est une.
Ah,
vous êtes
supporter Rennais. On me demande quelque chose, je fais immédiatement.
Bon, Romaric, toi t'es content ou pas de ton équipe alors?
Bien sûr, bonsoir à tous déjà.
Ouais,
alors effectivement, je suis très content du résultat. On a fait un bon match en contenu. Je suis pas forcément d'accord avec le précédent auditeur qui est supporter également du DFCO tout comme moi. Moi je trouve pas qu'on ait forcément besoin d'un aboyeur.
Ouais, c'est vrai.
Il y a déjà un qui se prénomme Mediabed et qui y revient bien. Ali, tu m'avais demandé il y a deux mois dans la store ce que je pensais de Mediabed. Et ben effectivement, il a repris du volume de jeu. Et dans notre charnière, il est vraiment très fort. Il est vraiment très bon. Il a une intervention.
Ah, c'est un joueur que j'aime beaucoup.
Ouais, moi aussi. Ouais. Il est vraiment physique. Il a.
Ah, il a tout. Hein. Il est très complet.
Ah, il est.
Il faut qu'il enchaîne et maintenant qu'il passe un temps au-dessus, oui.
Oui.
Et là, je pense que il faut absolument qu'il passe à vitesse supérieure.
Oui, ou alors peut-être qu'il se transfère dans un club peut-être un peu plus huppé, mais en tout cas, c'est vraiment un joueur qui a du ballon et il est vraiment beau à voir jouer. Ouais. Alors moi, je reviens un petit peu sur ce que vous avez dit. Je suis entièrement d'accord. Pour moi, l'homme du match, bien évidemment, c'est Flo Balmont. On va pas revenir sur, on connaît Flo, voilà, avec Cédric Varro, c'est les deux anciens, les deux Yonissois qui sont chez nous et qui nous font du bien, mais même dans le vestiaire, je pense que c'est plus là qu'ils nous font du bien. Mais surtout devant Tavares, bon bah c'est pas le meilleur joueur du monde, on va pas se mentir. Hein. Mais alors qu'est-ce qu'il est adroit, qu'est-ce qu'il est pratique dans les duels aériens, qu'est-ce qui nous fait du bien quand notre équipe est acculée.
Oui, c'est vrai. On craint tous les ballons, c'est pas compliqué.
Non, et puis, non mais il stat, hein, il met sa dizaine de buts par saison aussi, Tavares. Hein.
Et un petit point là-dessus, je connais pas bien Dijon, donc on va le faire avec toi puisque t'es supporter et tout. Donc ouais. l'année dernière, l'attaque de Dijon, c'était
Johnny Tavares.
Voilà.
Tavares,
c'était un duo, ça jouait dans une forme de, pas dans une forme, c'était un 4-4-2.
4-4-2, totalement.
Ok. Les deux, cette attaque, on trouvait tous, on est d'accord que ça fonctionnait bien, que c'était complémentaire, il y a eu des résultats même presque, surprenants parfois. En tout cas, ce duo a livré des matchs. Et à la fin de la saison, donc, dans ces deux joueurs qui avaient été des formes de révélation, dans les équipes, dans les petites équipes de notre Ligue 1.
Je vois où tu veux en venir.
Oui, je vais en venir, vas-y, je termine.
Je vais en dire qu'en fait, sans Tavares, Diony, il est perdu dans une équipe dans laquelle tout le monde ne joue pas pour lui, il est inutile, mais ce qui est la vérité, malheureusement.
Il y avait ça, c'était la première partie que j'allais dire, et la deuxième, tu me connais toujours peut-être un petit peu trop à chercher la petite bête. Est-ce que des deux, c'était pas Tavares le meilleur?
Ah bah bien sûr, bah il a plus du sens du jeu, il a plus de la vision.
Mais rien ne te dit que si Saint-Etienne avait pris Tavares, il n'aurait pas fait la même que Nelly, on ne peut pas savoir. Il y a un contexte, il y a plein de choses.
Mais évidemment, Nicolas, je suis d'accord avec toi. C'est juste pour poser la question à un supporter, savoir ce qu'il en pense. Est-ce que lui, son regard l'année dernière, c'était lequel qui, pour toi, était au-dessus?
Mais sois honnête, t'étais dégoûté de le voir partir, Diony, ou pas?
Franchement, oui, parce qu'il nous a marqué des pions. Et je me suis dit, on n'a pas de joueur, parce que Jeannot, il marque le but contre Paris, qui est magnifique, mais le reste du temps, il est pas très très bon, on va pas se mentir. Il y a un autre joueur qui est pas mal, c'est le petit Saïd, mais il est inconstant. Il peut mettre des buts de dingue, comme il l'a mis récemment, il a mis un superbe doublé contre Lille, où on gagne 3-0, et il nous fait le match à lui tout seul. Mais il a besoin également d'être en forme pour pouvoir bien jouer. Mais Tavares, c'est notre point d'ancrage numéro 1. Samaritano, qui tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de ce joueur, il joue un peu comme un 9,5, voire un 10 à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il se met toujours 2-3 mètres derrière les remises de Tavares pour toujours faire une passe en mouvement dans la vitesse sur la profondeur. C'est un petit peu ce qu'ils ont essayé de faire sur le but, même si c'est Balmont qui fait la passe à Rosier, qui lui remet dans la profondeur, qui amène le but, mais il y a toujours ce jeu avec Dalloglio qui est de jouer en une touche de balle. Alors, avec toute proportion gardée, un peu comme le faisait un petit peu à l'ancienne, dans les années 95, les Nantais, c'est-à-dire que dès qu'on a la balle, on se projette en groupe, en bloc, on essaye de faire des passes sur les côtés, sur nos latéraux, pour écarter soit sur le centre de Tavares, ou soit sur des passes en retrait sur Samaritano. Et ça marche bien, on marque beaucoup de buts comme ça, et ce qui est intéressant, c'est que sans Tavares, on peut pas faire tout ça. Donc c'est vraiment un joueur à mettre en avant, peut-être plus que Flo Balmont ce soir, qui on le connaît, quoi, il a joué dans la générosité, il a eu un peu de réussite, son centre, je suis pas sûr que c'est ce qu'il veut faire, mais c'est pas grave, on est content à la réussite, et c'est vraiment intéressant.
Attends, on l'aurait pu, Romaric, là, oh!
Pardon, excusez-moi, je suis
pas
Balmont, ou pas
ce soir. Laisse-le, Romain. Il fait longtemps, il y a longtemps qu'on n'avait plus de nouvelles de lui, depuis Le Mans, on savait pas ce qu'il était.
Alors, ça fait à chaque fois sur Romaric. Alors, la dernière fois, je m'étais trompé en plus. Je crois que c'est Hüseyin, son nom, qui avait corrigé parce que j'avais dit qu'il joue en Turquie alors qu'il joue à Chypre. Et il a arrêté sa carrière cette année, Romaric.
Alors, je vais te dire, notre ami Hüseyin qui nous suit sur championnat chypriote, turc, Grec, faut pas l'emmerder, faut pas déconner,
Romaric,
il est béton armé là-dessus.
Merci beaucoup de nous avoir appelé.
Tout le coin, là, il a une zone géographique qu'il maîtrise.
On se demandait qui Rennes devait recruter en attaque. Il y a une proposition de The Wasabi pour Dijon qui nous dit une attaque Gomez et Tavares, ça aurait de la gueule. C'est vrai que c'est pas faux. Ça ferait une belle affiche. Merci Romaric, à très bientôt. Merci de nous avoir appelé.
Bonne soirée
Romaric. Et en ce moment, moi j'ai un beau cadeau à vous faire. On vous offre un bon d'achat d'une valeur de 300 euros à valoir sur un site de e-commerce. Pour tenter votre chance, vous envoyez RMC par SMS au 732-16. Bonne chance, l'after revient dans quelques instants.
RMC, le super football show, l'after foot, Nicolas Villas.
Toujours avec Ali Benarbia et avec Daniel Riolo. Ce soir, match d'ouverture de la 23e journée de Ligue 1. Dijon s'est imposé 2-1 face au Stade Rennais. Les Dijonais qui montent à la 10e place et qui reviennent à 3 points des Bretons justement. Demain à 17h, l'une des affiches de cette journée, Paris Saint-Germain-Montpellier, le PSG qui devra faire sans Mbappé alors qu'il a été touché, vous le savez, lors du dernier match face à l'OL. Neymar était incertain, mais il sera bien là. C'est l'une des infos de la soirée. Dani Alves lui sera suspendu. D'ailleurs, on commence à vous poser la question, vous lancez l'appel au 32-16. Dani Alves peut-il perdre sa place? On vous pose la question. Mais d'abord, on va s'intéresser au cas Neymar. Est-ce que vous croyez, vous, qu'il y a vraiment un malaise Neymar? Alors, il y a officiellement, donc, il souffrait d'une élongation. Neymar, certains parlent d'une blessure diplomatique. Alors, d'autres, notamment une source proche du joueur qui s'est exprimée auprès de Sky Sports, a affirmé qu'il était très heureux au Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit autour de Neymar. Emery s'est exprimé encore aujourd'hui également en conf de presse. Il a assuré que Neymar resterait au Paris Saint-Germain, qu'il deviendrait le meilleur joueur du monde d'ailleurs au Paris Saint-Germain. Vous en pensez quoi de ça, de toutes ces infos, de ces rumeurs?
Avant de te dire ce que j'en pense,
je vais te poser la question et il va falloir assumer la question. Tu dis certains disent ou ont dit. Je veux savoir qui.
Bah, alors ça va de la presse française jusqu'en Catalogne. En Catalogne, ça, on en parle depuis.
En Catalogne, c'est normal.
En Espagne, ça fait des semaines.
Qui la presse française?
Bah, l'équipe en a parlé, par exemple.
Voilà. Non, mais c'est bien de mettre les noms.
Ouais. Non, mais je te dis, voilà, ça, la presse, mais il n'y a pas que l'équipe.
Notre rédaction travaille.
Ouais.
Je pense même que sur le Paris Saint-Germain, si on fait le calcul depuis, sur les dernières années, au niveau information sur ce qui se passe vraiment et comment ça marche, je pense qu'on est largement devant. C'est vérifiable. C'est très vérifiable. N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous, on dit?
Alors, Saber Desfarges, tu sais, qui suit le Paris Saint-Germain, a suivi le dossier.
Non, mais on va y aller. Parce que les gens en ont un petit peu marre en ce moment, et ça commence à peser, et le climat devient, et je crois, a atteint un niveau que, très franchement, je pensais ne jamais voir en France, parce que je pensais que nos médias ne feraient pas ça. Je pense que là, on n'est pas en Angleterre, on est en Angleterre au niveau des chiottes. Tu vois, le Sun, où il y a la femme à poil en page 3.
Non, mais là, ça reste.
On atteint ce niveau-là.
Non, mais attends, qu'un média puisse dire qu'il y a un malaise au sein d'un vestiaire, je suis désolé, c'est pas de la presse de chiottes, Daniel. Ça reste sportif.
Non. Pas là.
C'est lié au vestiaire, c'est pas des affaires là, intimes, d'ordre intime, ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est ça la presse à chiottes.
Non, ça dépend. Si tu veux. Mais non. Si ton information, quelle qu'elle soit, a une incidence sur le terrain et qu'elle est réelle, aucun problème, tu peux le dire. C'est pas ça que j'appelle. Moi, ce que j'appelle le truc de chiottes, c'est l'invention. C'est créer l'histoire. Donc, reprenons à ce qu'on est en train de dire. Saber Desfarges suit le PSG au plus près. Momo aussi.
Après, chacun, chacun a ses informations. Non, mais
le problème, c'est qu'on en a quand même beaucoup. T'as un journaliste de brésilien qui a quand même dénoncé carrément une énorme fake news. Il faudra déjà s'intéresser à ceux qui les ont, ces infos. Donc, Saber, il dit
quoi? Alors, Saber a bossé le dossier. Il suit le Paris Saint-Germain au quotidien, Saber Desfarges. Alors, lui, il a mené son enquête. Neymar juge que la Ligue 1 est trop rugueuse, qu'il n'est pas assez protégé, notamment par les arbitres. Et un autre aspect également qui fait que, c'est que Neymar a mal vécu, notamment les sifflets au Parc des Princes lors du fameux penalty et de cette histoire avec Cavani. T'es passé par dans pas mal de vestiaires.
Ça, on l'avait dit. On l'avait dit. Mais là, on parle du malaise.
Qu'est-ce qu'il bouffe?
Non, mais j'ai un truc, j'ai un fil dans la bouche, pardon. Non, mais le malaise et tout ce qu'on lit, à savoir, limite, il va faire exprès de mettre le bordel pour pouvoir partir au mois de juin, tout ce truc-là. Tiens, le climat qui est atteint aujourd'hui dans les ragots et qui vont être entretenus également en Espagne parce que on veut la petite guéguerre avant le match, foutre la pression, on est rentré là dans une logique d'intox terrible. Là, c'est de l'invention, il faut faire très très attention quand même. Enfin, en tout cas, il faut qu'on clarifie pour les gens qui nous écoutent.
Alors après, c'est pas nécessairement de l'invention. Ça peut être des sources ou des informations concordantes avec celle des autres.
Si ta source, c'est pas de l'eau qui coule, mais du caca, c'est pas de l'info, excuse-moi.
Bah, ça dépend, Daniel. Des fois, il y a des choses qui sont déplaisantes.
Bah, à quoi tu crois, alors? Je veux bien que t'aies envie de ménager la chèvre et le chou.
Mais moi, je ménage que dalle. Moi, je ménage que dalle.
Toi, tu crois quoi?
Comment ça, je crois quoi?
Bah, selon tes infos, ce que tu sais, tu crois quoi?
Bah, moi, je crois qu'effectivement, il y a des choses qu'il a mal vécues au Paris Saint-Germain.
Non, mais c'est pas ça, je te parle du malaise.
Daniel, moi, je suis pas là pour répondre,
à ça. Soit on parle d'un sujet, ou alors on zappe le sujet.
Mais moi, je suis pas là pour parler, je vous pose des questions. Je pose des questions aux gens, vous répondez, les mecs.
Je vais bien répondre, Nico.
Moi, je vais pas inventer, tu dis non ça.
Nico, moi, je veux bien répondre, mais si, il faut qu'on fasse un débat sur les inventions. Non, non, soit on assume et on dit, c'est pour chacun fait son
poser
taf,
la question,
voilà, mais il faut dire les choses.
Il n'y a pas de malaise. Allez. Neymar, sous la simple raison, c'est que il se sent bien au PSG. Il voulait venir au PSG parce que c'est pour être la star. Et le club, et les joueurs, et le coach font tout pour qu'il soit la star. Donc, il ne peut pas y avoir de malaise. Est-ce qu'il a mal vécu le sifflet? Mais personne n'aime bien être, être sifflé. Mais maintenant, de là qu'il ne soit pas bien, non, pas du tout. Et il comprend les sifflets. Ce n'est pas par rapport à lui, les sifflets, parce qu'on l'a redit plusieurs fois, parce que il a été mauvais ou pour ceci ou pour ça, c'est juste pour faire plaisir à Cavani. Mais il ne prend pas du tout mal les sifflets et il prend plaisir à être au PSG. Donc il n'y a pas de malaise. Maintenant, c'est sûr, comme dit Daniel, si on recherche toujours la bête, pas sur Neymar, sur le PSG, même quand ça va bien, c'est habituel, ça a toujours été comme ça. Mais maintenant, comme c'est une équipe de stars et que c'est encore plus mettre à l'avant, on va rajouter encore
non,
plus.
Ali, il y a quelque chose qui n'est pas habituel, c'est quand un média souhaite absolument l'échec d'un club.
Ça dans le PSG, souvent.
Ça n'a jamais été à ce point.
Si. Enfin, peut-être pas à ce point.
Mais quel intérêt ils auraient à ça?
Mais c'est une ligne éditoriale. Hein.
Mais c'est pas compliqué.
Et France 98, c'était pas une ligne éditoriale qui avait été décidée.
Justement.
Ça avait été décidé en comité de rédaction en 98. Hein. Nous allons plomber les Bleus et Aimé Jacquet.
Hein. Parce que toi, tu crois qu'on est retombé là-dedans là.
Ah, complètement. Et ça fait un an que ça dure.
Là où l'équipe, et c'est vrai, où tout le monde regarde, où se vend le plus.
Mais donc t'as des infos alors.
C'est pas qu'elle.
Évidemment, je parle dans le vent.
Non, non, mais je te demande, moi.
C'est pas quand le PSG gagne.
Ça fait des mois que je le répète.
Quand le PSG gagne 6-0 ou un match magnifique, c'est pas pour autant que l'équipe se vend. Quand le PSG perd un match, il se passe quoi que ce soit. Déjà, on le voit de partout et ça se vend hyper, hyper bien. Mais.
Le PSG, c'est malheureux. Le train qui n'arrive pas à l'heure. S'il arrive à l'heure, c'est trop évident pour eux.
Moi, j'ai des potes qui bossent à l'équipe. Il y en a jamais un, et des très intimes, il y en a jamais un qui m'a raconté que dans les comités de rédaction, les mecs s'étaient mis d'accord pour défoncer le Paris Saint-Germain.
Ça existait France 98 ou pas?
Mais d'accord, mais c'est
on
pas le
su,
rapport. Mais on parle pas de ça.
Dessus.
Mais il y a plein de choses qui sont passées par le passé. Ça veut pas dire que ça va nécessairement se répéter. Au contraire, t'apprends parfois des erreurs du passé, hein.
Eh ben, écoute, d'abord, moi, je te le dis, donc tu me crois moi si tu veux, et tu me crois pas si t'as pas envie. Ensuite, il y a des gens quand même qui travaillent sur le sujet. Je crois que fin mars, t'as un bouquin qui sortira, où il y aura quelques révélations sur le sujet. Des gens qui sont très très bien informés et qui ont prouvé qu'ils étaient bien informés. Donc voilà, tu verras. Mais maintenant, toi, comme tout le monde, comme moi, comme Ali, comme tous les gens qui nous écoutent, on est dans un pays libre et chacun est libre de penser et croire Absolument. Ce qu'il a envie de croire et de penser. Maintenant, si tu le crois pas, tu le crois pas, mais moi je te dis que c'est vrai.
Ok. Voilà. On passe à Daniel Alves, les gars, qui sera.
Et que dans ces cas-là, tout le monde n'est pas au courant dans un journal. Okay. Il y a des gens qui sont destinés à suivre certains clubs.
On ne dit pas tout, non plus.
Il y a des gens qui suivent certains clubs. Ouais. Tu vois, voilà.
Alors, il avait été exclu lors du match face à l'Olympique Lyonnais, Daniel Vest. Il avait pris 3 matchs de suspension, donc il était déjà absent du match de Coupe de France face à l'En Avant de Guingamp. Il a pris 3 matchs de suspension et 1 avec sursis. Question, Daniel Vest peut-il perdre sa place? On attend vos réactions au 32-16 sur le hashtag RMC Live également. On va écouter d'abord Unai Emery qui s'est exprimé aujourd'hui en conf de presse, justement concernant cette fameuse suspension de 3 matchs plus 1. Il trouve ça injuste, Unai Emery.
Il peut être plus tranquille et aussi maintenir pour ne pas nous donner les cartons rouges. Mais c'est une décision de l'arbitre que je respecte. Après, la sanction de 3 matchs est totalement injuste. Après, c'est aussi pour le respect avec les personnes qui l'ont décidé ça, mais je crois que c'est très injuste.
Alors Saber Desfarges qui donc suit le Paris Saint-Germain et il a aussi creusé à ce niveau-là, le Paris Saint-Germain a décidé de faire appel de la décision. Alors ce remplaçant naturel, entre guillemets, c'est Thomas Meunier. Ali, est-ce que tu penses que Daniel Alves peut perdre sa place, toi?
Non, parce qu'il perd sa place s'il est nul, s'il est pas bon, s'il prend un carton rouge parce qu'il a fait encore des fautes ou le joueur partait.
Nul, il est peut-être pas, mais il est pas très bon. Hein.
Voilà, exactement, ça c'est sûr. Mais bon, s'il passe complètement au travers, et on l'a vu de toute façon, quoi qu'il se passe, Emery a le réflexe dans les gros matchs de faire jouer Daniel Alves. Donc dans la tête du coach, déjà, c'est pas qu'il se sent obligé de le faire jouer, mais pour lui déjà, il pense que Daniel Alves lui apporte plus. Maintenant, si entre-temps, Meunier fait des très très bons matchs, sais pas, et démontre qu'il apporte énormément plus, ça peut, il peut y avoir une concurrence. C'est pas pour autant qu'il prend la place. Une concurrence, parce que là, il n'y en a pas du tout de concurrence. C'est Alves tout seul et Meunier vraiment, vraiment quand l'autre il veut pas jouer ou il est blessé ou quoi que ce soit. Mais si par contre Meunier fait des gros matchs, là il pourrait y avoir à la rigueur une concurrence. Mais sincèrement, vu la façon dont Emery s'y prend depuis le début, je vois pas du tout la concurrence.
Alors tu dis, Alexandre dit à peu près la même chose que toi sur le hashtag Remsela, elle dit Alves ne peut pas perdre sa place, il joue quand il veut, s'il veut, et donc tout le temps, alors même suspendu, il va évidemment reprendre sa place après, il a une immunité hors norme. Ton
oui,
avis
ça,
Daniel
ça, là-dessus,
je même suis suspendu, fidèle au il joue.
Non, mais Alexandre, je suis d'accord avec ce commentaire. Ça effectivement, ça c'est un problème au PSG, c'est l'autorité d'Emery sur certaines personnes et dans certains cas, et le fait qu'Alves ait dit je veux jouer les matchs et en gros et fausser la concurrence, ça c'est une réalité. Ouais. Voilà.
Pourtant, il n'y a aucune chance que Meunier puisse reprendre sa place.
Je serais vraiment très surpris.
Mmh. Tiens, on va écouter justement Unai Emery sur le
et cas. J'aimerais me tromper.
Sur le cas Meunier, parce qu'il forcément il a été interrogé là-dessus, vu que c'est lui qui va remplacer le Brésilien.
Meunier, il a gagné l'année passée ici une progression très grande. Et aussi, avec la concurrence de Dani Alves aussi. Et avec aussi, pour apprendre avec un coéquipier comme Dani Alves, sûr qu'il va, il va améliorer. Il va progresser mieux comme joueur.
Et alors, la question maintenant, c'est.
Ah, il a répondu, Emery. Meunier va apprendre avec Alves. Il va progresser. Ça veut dire, regarde et apprends.
Et tu comprends ça, toi, ou pas?
Non. Dans le sens où Meunier, il n'a pas 18 ans, il n'a pas 17 ans, Meunier. Ouais, tu dis 26. Ça pour un jeune centre formation qui est très bon et qui va apprendre devant un joueur qui apporte. On pensait à Maxwell pour Kurzawa, tu vois. Mais Meunier, il est, ça fait un certain temps qu'il joue quand même. Il est international belge titulaire, qui plus est. Et ça fait un moment qu'il est au PSG, c'est pas récent. Et alors qu'Alves n'est pas là depuis 5 ans, il vient juste d'arriver.
Et tu le trouves bon, toi, Alves, ou pas? En ce moment?
Ah non, non, non.
Non, on peut pas dire ça. Alors comment dans un vestiaire tu gères ça? Comment tu justifies auprès de Meunier aujourd'hui quand t'es Unai Emery?
Le problème, c'est que t'as pas à le gérer par rapport à beaucoup de monde. Parce que le clan des Brésiliens est assez fort et que c'est pas, et tu vas le justifier par rapport à qui? À Meunier qui va faire la tronche.
Ce que je comprends pas, c'est que quand le PSG recrute et Emery recrute Alves, c'est pourquoi? C'est pour jouer quel poste? Parce que quand tu le vois, le Alves, à la Juve, il veut pas jouer arrière droit.
Il a beaucoup joué au milieu.
Mais c'est pas ça, c'est qu'il veut jouer au milieu, il veut pas jouer arrière droit. Là, il joue arrière droit au PSG, mais à la base, ben alors, on l'a vu au début de saison. Il l'avait essayé au milieu de terrain. Et dès qu'il peut, il l'essaye au milieu de terrain.
Ouais, enfin, il l'a mis une fois. Hein. Ouais. Au total, ça a dû faire deux fois.
Ouais, mais
après, il y avait l'autre possibilité, c'est en mettre un à gauche et l'autre à droite aussi. On en a souvent parlé
alors
ici.
Ça,
aussi.
C'est quelque chose qui semble-t-il. Bon, on l'a vu une fois dans un match, c'est vrai. Mais c'est quelque chose qui, effectivement, vu la carence à gauche, aurait pu être envisagé. Moi, j'aurais préféré, même si c'est pas un crack, qu'il donne confiance à Berchiche et qu'il lui fasse faire plein de matchs pour qu'il s'habitue à l'équipe et pour que, même sans être un crack, ce soit avant tout un bon défenseur.
Qu'est-ce qu'il soit du lourd
et,
à gauche.
Et voilà, parce que de toute façon, c'était ça ou rien. J'aurais préféré qu'il fasse ça. Non, sur les latéraux, il y a une gestion qui est très moyenne de la part d'Emery.
Le problème d'Alves, c'est ça. Et le problème, et c'est ce qui m'agace un petit peu en ce moment au PSG, c'est qu'il y a des joueurs qui se permettent de faire des choses qu'ils ne faisaient pas à Barcelone ou à la Juve. Alves, à Barcelone, il jouait arrière-droit. Il se défonçait, il était sur son couloir, il jouait arrière-droit. Là, non, il joue pas comme un arrière-droit. Il a envie de jouer au milieu terrain, c'est-à-dire qu'il s'en fout un petit peu de ce poste d'arrière-droit. Et quant à Neymar, c'est un petit peu la même chose, et c'est dommage, c'est que à Barcelone, bon, c'est vrai que t'as Messi, Suarez et t'as Neymar, mais là, il fait ce qu'il veut, quand il veut, alors que c'est un joueur exceptionnel et qui pourrait apporter encore plus, avec même s'il est libre, l'électron libre, d'être un peu plus précis. Là, non. Et c'est dommage que quand tu as deux joueurs qui font un peu ce qu'ils veulent, qu'il n'y ait personne d'autre là-bas qui recadre légèrement. Et c'est le problème du PSG en ce moment.
Tiens, je vous donne également une petite info concernant le Paris Saint-Germain. Il y a Lucas qui se rapproche de Tottenham. Voilà, sachez-le. Voilà, alors la team RMC a bossé. Un accord a été trouvé entre le Paris Saint-Germain et Tottenham. Le PSG qui espère récupérer 30 millions d'euros sur l'international brésilien. On se rappelle qu'il avait été recruté en 2013. Il avait coûté 40 millions d'euros, hein, Lucas.
Exactement.
Grosse perte ou pas, tu penses, toi?
Ben, ils jouent pas, ils en veulent pas. Ils veulent se débarrasser. Par contre,
c'est une super belle vente.
Ouais, il manquera pas.
Ben non, il jouait pas de toute façon. Donc, non.
Non, mais t'as Pastore, Draxler, Di Maria qui peuvent attendre sur le côté.
Non, mais c'est surtout, c'est déjà vachement bien pour Lucas. Parce qu'il aurait pu à un moment se dire dans quel club il peut rebondir et tout. Le mec, il a quand même Tottenham, quoi.
Il a Tottenham.
Après, de quelle façon il peut faire sa place là-bas, je ne sais pas. Mais en tout cas, le mec, il quitte Paris pour aller à Londres et dans un club, dans un bon
dans
club
un très
de Londres.
Bon club qui joue la Champions League.
Ça va.
Avec un bon coach en plus.
Oui, sauf que la Champions League.
Je sais pas s'il a joué, Lucas. Je sais même pas s'il est rentré.
Avec le PSG.
Je sais même.
Mais il faut pas être simplement
sur.
Ah, je t'avoue que je connais pas.
Faut pas être inscrit, non?
C'est inscrit ou avoir joué?
Non, faut jouer.
Eh ben, je pense pas qu'il ait joué en Ligue des Champions.
Non, on non plus.
Ça m'étonnerait. Ouais.
Possible. Hein.
Dans quelques instants, on sera avec Fred Hermel. Pourquoi? Parce que demain, il y a un choc entre le Real et Valence. Ça, et le Real va mal. Et aujourd'hui, Fred Hermel, il était avec notre Zizou. A tout de suite pour la suite de l'after.
RMC, le super football show. L'after foot, Nicolas Villas.
Avec Daniel Riolo, avec Ali Benarbia, on vous rappelle que ce soir, Dijon s'est imposé 2-1 face au Stade Rennais. Premier match de la 23e journée de Ligue 1. On va filer en Espagne maintenant. Il est là, Fred Hermel. Hola, Chico.
Hola, Chico.
Oh là là, Fred, demain après-midi, mon Dieu.
Alors attends, bouge pas, Fredo. Bouge pas. Avant de dérouler, il y a eu les tirages au sort des demi-finales de la Coupe du Roi aujourd'hui, ce qui joueront le 31 janvier et le 7 février prochain. Leganés Séville et Barça Valence. Alors le Real qui a été éliminé cette semaine par Leganés justement de la Coupe du Roi. Le Real qui affronte donc Valence demain en Ligue 1. Le Real qui est à qui est troisième à 5 points de Valence avec un match en moins. C'est vrai. Est-ce que Zizou est en danger, Fredo, demain?
Non.
Comme
non,
ça.
Zizou n'est pas en danger. Oui, non, mais c'est sûr. Zizou, quoi qu'il arrive, sera entraîneur du Real Madrid jusqu'à la fin de la saison.
Non, mais le Real est en danger. Zidane, son Real, destin lui appartient. Oui.
Mais le Real, bien sûr, parce que le Real n'est pas troisième, le Real est quatrième. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui,
oui, ils sont quatrième, pardon.
Ouais, c'est ça. Non, parce que c'est important parce que à partir de la saison prochaine, les quatre premiers iront directement en Ligue des Champions, mais le cinquième, il va en Ligue Europa. Et là, le Real a pour objectif en Liga de se qualifier pour la Ligue des Champions, de sauver cette quatrième place, alors que vous avez deux clubs qui sont juste derrière, qui s'appellent Séville Football Club et Villarreal.
Villarreal qui est à un point du Real, avec un match
en
plus.
Le Real a un match en moins, puisqu'il y a encore un match ou à Leganés. Donc il faut pas croire que le match il est gagné à Leganés, hein,
non,
vous avez remarqué. Hein.
Pas.
Donc il y a une urgence. C'est oui, on peut dire oui, le titre est fini, c'est pas grave, ils peuvent se relâcher en Liga. Ben non, parce que là, ne pas gagner le titre cette saison, à part le Mondial des clubs, la Supercoupe d'Espagne, la Supercoupe d'Europe, mais bon, ne pas gagner le titre majeur serait catastrophique, mais ne pas aller en Ligue des Champions, ce serait un tremblement de terre dont personne ne se remettrait. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que...
C'est quand la dernière fois qu'ils n'ont pas joué à la Champions League?
Et je m'en souviens plus.
Ah ben voilà.
Non, mais je m'en souviens plus. Je sais que...
Les clubs champions, quoi.
Ouais, ouais. En fait, quand il gagne en 98, il termine 7e en Liga, mais comme il gagne la Ligue des Champions, ils seront qualifiés. Voilà. Mais là, franchement, de mémoire récente, je me demande s'il ne faut pas remonter.
Alors, je suis en train de regarder la dernière fois qu'ils ont joué la C3, c'était en 94-95.
Ouais. C'est ce que j'allais dire, c'était contre le PSG. Le PSG, c'est 93.
C'est 92-93 la première fois.
Voilà.
Et 93-94 la deuxième fois.
Voilà. Et ben, la dernière fois, c'est ça. Donc, vous imaginez? Et puis surtout, aujourd'hui, au niveau financier, etc., la participation à la Ligue des Champions, il y a tellement plus d'enjeux aujourd'hui financiers pour un club comme le Real que de ne pas disputer la Ligue des Champions. Mais ce serait, et pour Zidane, ce serait une honte absolue. C'est-à-dire que tout le crédit, une grosse partie gagnée ces dernières années.
Ça c'est vraiment envisageable, ça.
Ah ben,
qui joue pas la Ligue des Champions.
Ça veut dire qu'il termine hors top 4.
Bah, attends, mais il y a Séville et Villarreal.
Comme dit Fredo, Villarreal, ils ont un point de retard seulement. Séville a 3 points de retard seulement.
Enfin, il faudra vraiment qu'il y ait un enchaînement.
Non, c'est pas ça. C'est qu'ils sont vraiment dans une... Ouais, mais attends, Fred. C'est parce que là, le Real est dans une période que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été comme ça. S'ils commencent à enchaîner les victoires, automatiquement, ça va faire le trou. Et on n'en parlera même plus.
Ce que je veux dire, c'est que... sur la Ligue des Champions, bah non. Parce qu'il faut sauver la place de la quatrième place en Liga.
Les deux. Il y a pas
que Zizou, il en dit quoi, Fredo? T'étais avec lui, non, cet après-midi, non?
Il va beaucoup mieux que mercredi soir, parce que mercredi soir, il était démonté, quoi. C'est-à-dire qu'il a, il avait pris une tarte dans la figure, mm-hmm. parce qu'être éliminé en quart de finale de la Coupe du Roi à domicile par les Ganes, après avoir gagné au match aller la semaine d'avant, bon, c'était quelque chose qui n'était pas prévu au programme. Et il a une capacité à se refaire la cerise qui est quand même assez impressionnante. Il avait le sourire aujourd'hui en conférence de presse. Il était plutôt positif et on va l'écouter, même s'il il avoue passer par une période très très difficile. On l'écoute.
Quand il y a des moments un peu plus compliqués, ben il faut l'accepter, mais il faut, ça va pas me, moi ce qui est sûr, c'est que ça va pas m'empêcher de continuer à faire ce que je fais et de penser que justement on va changer la situation. Ça non, parce que sinon si je pense ça, en fait, il faut que je parte demain.
Voilà, c'était donc Zidane. Bon.
Il maintient ses idées. En fait, il va mourir avec ses idées.
Alors c'est ça. Je sais pas si ce que tu dis équivaut à ce que je vais dire, mais peut-être on va être d'accord. En fait, je crois que son problème, c'est pas tant, on n'en est pas à savoir bon, pas bon, ceci ou cela. C'est que il veut continuer à faire confiance aux mêmes hommes et mêmes groupes en se disant, et peut-être en se rappelant à lui joueur, lui joueur aussi. A eu des moments où il était moins au top. Zidane, c'est pas, contrairement à peut-être le souvenir qu'on peut en avoir, une carrière tout le temps linéaire.
Oh non. Et
il avait des moments où, clairement, il était mais très en dessous de ce qu'il était capable de faire. Mais quand
même émotionnellement, hein, il a eu parfois du mal. Hein,
mais quand à un moment, et on peut reprendre par exemple la Coupe du Monde 2006, où on n'est pas obligé d'imaginer qu'il va faire une Coupe du Monde pareille, qui est pourtant le sommet de sa carrière en termes de jeu, à ce moment-là, alors qu'il avait gagné énormément de titres déjà avant, le fameux but contre les Leverkusen, c'est déjà 4 ans avant, il est vraiment plus sur la fin. Il avait cette capacité, quand un moment fort arrivait, à se sublimer, à être extraordinaire. Donc est-ce que ce réflexe de joueur que lui avait, il le transfère sur ses joueurs aujourd'hui en disant « Vous avez tout gagné ». Vous êtes super fort. Avec vous, on a fait des trucs de dingue l'année dernière. Donc, il n'y a pas de, ne me poussez pas à trancher, à en sortir quelques-uns, à couper des têtes. On va y arriver encore ensemble. Alors que peut-être certains, et évidemment, je ne suis pas en train de dire, et même pas une seconde en rêve, je pense qu'il y en ait un seul qui a envie de le trahir, mais absolument pas. Je pense qu'ils sont tous derrière lui encore, qu'ils ont tous envie de continuer l'histoire avec lui, mais que peut-être il y en a qui n'y arrivent plus. Il y en a qui ont plus soit la motivation, soit la forme, soit les qualités parce qu'ils sont un peu cuits.
Soit dans la tête leur dernière Coupe du Monde.
Oui, voilà, ou des choses comme ça. Ouais, et lui, et Zidane ne veut pas trancher par rapport à ces mecs-là, ne veut pas de grands bouleversements. Il veut finir avec eux, pousser le maximum en espérant, en attendant qu'il y ait un sursaut, qu'il y ait un réveil. Est-ce que ce sursaut, ce sera en Ligue des Champions? Mais d'ici là, mine de rien, il y aura quand même des matchs de championnat à gagner. Et les perdre, ça peut être un problème pour, tout simplement pour la Liga si les autres avancent. Tu vois, en fait, il se retrouve dans cette situation qui est, à mon avis, délicate à gérer lui, qu'il ne connaît pas en tant qu'entraîneur.
Simplement.
Il n'est pas, dans son rôle d'entraîneur, il ne l'a pas eu encore, pour l'instant, dans sa jeune carrière.
Vite, parce qu'il va bientôt falloir
c'est l'idée de trancher, de couper. Ça, il l'a pas encore fait.
Non, il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Après, il a un avantage sur nous tous, c'est qu'il est à l'entraînement tous les jours et qu'il les voit bosser. Et ce que je sais, c'est qu'il est content de ce qu'il voit tous les jours.
Ouais, mais lui aussi à l'entraînement, il était très pas vite, toujours top.
Allez, vas-y.
Non, moi je pense qu'en fait que arrivé à un certain temps, et Zidane il le sait très bien, la solution elle vient quand même des joueurs. T'as beau être Zidane et faire les entraînements, trouver des ressorts, des solutions et gagner tout ce qu'il a gagné avec cette équipe, arrive un moment, la solution vient aussi des joueurs, comme elle est venue aussi des joueurs quand il a gagné. Mais le problème, c'est que le temps passe et c'est pas du tout évident. C'est surtout ça.
Eh ben, le temps passe et c'est déjà fini. Merci, Fredo.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Ciao, Fred. Bon.
Merci, à demain. Tiens, juste, je vous dis très, très rapidement que Terrier s'est fait à Lyon. C'est officiel.
Très bien.
Voilà. Et il sera prêté du coup à Strasbourg. Hein. Ça, ils ont trouvé l'accord. Le litige était là. 11 millions plus 4 de bonus et 10% sur une éventuelle plus-value à venir.
Très bien.
Petite info transfert pour terminer.
Très bien.
Et Yann pêchera la bosser du côté de Monaco parce qu'il bosse tous les jours. Monaco qui est sur le point d'engager la jeune pépite du Genoa. Qui c'est toi, Pietro Pellegrini?
Très bien.
16
très
ans. Bien. Il va coûter 20 millions d'euros le gamin. 16 ans il a.
Très bien.
Voilà, il y a Arsenal et la Juve dessus. Voilà. Merci Ali. À demain.
Merci.
À demain Daniel.
Très bien.
Allez, à demain. Bisous. Ciao, ciao.
RMC, le super football show, l'After Foot.